Bienvenue dans l'accent des autres. Voici l'essentiel de l'actualité de la semaine dans les rédactions des médias francophones publics. C'est comme chaque semaine avec la Radio-Télévision Suisse, Radio-Canada, France Inter, la RTBF et RFI. Et on va commencer aujourd'hui en Suisse. La Suisse qui à son tour introduit cette semaine le pass sanitaire dans les restaurants, dans les lieux de loisirs. Et Nadine Altiner, on débat déjà de son extension.
Notamment cet hiver sur les pistes de ski, des voix s'élèvent pour imposer le certificat Covid dans les télécabines et les remontées mécaniques, mais on ne touche pas si facilement à notre sport national.
En France, c'est une prise de parole qui n'est pas passée inaperçue cette semaine. Les athlètes olympiques et paralympiques invités il y a quelques jours à l'Élysée se sont fait véritablement bousculer par Emmanuel Macron. Karine Bécart qui leur a véritablement fait la leçon.
Oui, on peut dire qu'il n'a pas hésité à les secouer. Pourquoi ? Parce que pour le président français, les athlètes n'ont pas rapporté assez de médailles cet été à la France. Il leur a donc demandé très sérieusement, vous l'entendrez, de faire beaucoup, beaucoup plus aux prochains Jeux Olympiques, c'est-à-dire à Paris, vous le savez, en 2024.
Le président français qui a aussi annoncé la mort d'un haut responsable djihadiste cette semaine, Abu Walid al-Sahraoui, a été tué par une frappe de la force Barkhane, Anne Cantner.
Le chef de l'État islamique au Grand Sahara a été tué par la force française au Mali.
En Belgique, on retiendra cette semaine cette nouvelle visite du couple royal au sinistré, 2 mois tout juste après les terribles inondations de la mi-juillet, Jacques Remers.
Ils sont retournés dans les communes en bordure de la Vesdre et de l'Ourthe et dans le même temps, le gouvernement wallon mobilise jusqu'à 3 milliards d'euros pour les victimes et la reconstruction.
Enfin, au Canada, la campagne électorale touche à sa fin et lors d'un débat des chefs de parti, Nadine Moubarak, la question d'une modératrice a provoqué un tollé.
Oui, de nombreux élus ont vu dans cette question une attaque contre le Québec.
Voilà pour le sommaire de cette semaine. Bienvenue dans l'accent des autres. On démarre donc en Suisse où le pass sanitaire s'est imposé donc depuis lundi dernier dans certains lieux. Mais cela dit, Nadine, on se demande désormais déjà s'il va aussi s'inviter cet hiver sur les pistes de ski.
Son casque, ses lunettes et peut-être bientôt son pass sanitaire. Des voix s'élèvent pour imposer le certificat Covid dans les télécabines et les remontées mécaniques. Pour l'heure, ce QR code qui prouve une guérison, un test négatif ou une vaccination est exigé dans les restaurants et les lieux de loisirs, mais pas sur les terrasses ou dans les transports publics. Alors pas question pour les stations d'imposer cette contrainte aux skieurs, d'autant que l'an dernier, la Suisse s'était distinguée en Europe en laissant ouvert tous ces domaines skiables. Écoutez Pierre Besson, président de la coopérative des abonnements Magic Pass.
Si on regarde l'année passée, on n'a pas constaté de cluster sur nos domaines skiables, qui est une bonne expérience. En plus, les remontées mécaniques suisses ont reçu un prix européen, puisqu'ils ont su garder leur remontée mécanique ouverte. Je ne vois pas pourquoi on changerait pour l'hiver prochain.
Pas question donc, Nadine, de changer une stratégie payante. C'est ce que dit à l'instant le président de la coopérative des abonnements Magic Pass.
Sauf que cette année, la situation n'est plus la même. Brigitte Crotta, médecin et conseillère nationale socialiste.
Les conditions ont changé depuis l'année passée, puisque le variant Delta est arrivé. Il y a une grande partie de la population qui est vaccinée, et tant mieux. Mais pour ceux qui ne le sont pas, c'est vrai que le risque est plus grand maintenant que précédemment d'attraper cette maladie. Moi, je suis plutôt pour le pass sanitaire dans certaines conditions, dans les remontées mécaniques. Je pense que tout ce qui est en plein air ne justifie pas forcément cela. Mais tout ce qui est dans des télécabines où les gens sont vraiment confinés dans un tout petit espace, on ne peut pas tellement considérer cela comme un transport public de même titre que le train ou que le bus. Les gens sont quand même moins entassés les uns sur les autres.
À ce jour, les autorités n'ont pas tranché et seule une station dans les Grisons a annoncé de son propre chef qu'elle imposerait ce certificat Covid sur ses pistes dès cet hiver.
Voilà pour le débat en Suisse. Alors qu'en est-il des domaines skiables en France cette fois, Karine? Un pass sanitaire dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, est-ce imaginable en France?
Oui, le pass sanitaire pourrait bien s'imposer à la montagne cet hiver en France. En tout cas, le gouvernement, pour l'instant, n'exclut pas d'y recourir pour pouvoir ouvrir les stations de ski, notamment à Noël.
Et puisqu'on parle de sport, on va rester en France avec cette fois un message présidentiel qui a donc un peu surpris. Emmanuel Macron n'a pas hésité lundi dernier à sermonner véritablement les athlètes français qu'il recevait à l'Élysée. Ils étaient invités à un cocktail après leur retour des Jeux Olympiques. Mais pour certains, le champagne a dû plutôt mal passer quand le président a exigé plus de médailles compte tenu de l'argent public qui était engagée.
Il nous faut tous ensemble préparer la suite et nos Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Les résultats sont là, mais des progrès restent possibles. Le bilan global de ces Jeux olympiques n'est pas tout à fait au niveau que nous attendions. On sait que sur certains sports, il est même mitigé. Pour les médaillés d'aujourd'hui, il va falloir vous rebattre pour tenir la performance pour 2024. Pour ceux qui ont raté ce rendez-vous ou pour ceux qui n'étaient pas encore prêts, il faudra mettre les bouchées doubles parce que ce rendez-vous de 2024, il arrivera une fois dans votre vie. On m'interroge souvent sur l'objectif de médaille fixée. Je ne suis pas de ceux qui se fixent pour ambition de faire au moins aussi bien. Je vous le dis très clairement, on doit faire beaucoup plus. Beaucoup plus. Parce que ce sont nos jeux, c'est à la maison et c'est attendu. Et donc il faut pour chaque fédé, pour chaque sportif, se mettre la pression maximale. La France peut très clairement un jour intégrer durablement le top 5 olympique et le top 5 paralympique.
Voilà le président français interrogé par France Inter, Emmanuel Macron, qui a aussi annoncé cette semaine la mort d'un chef djihadiste, Abou Walid al-Sahraoui. Il a été tué en août dernier, mais on ne l'a appris que ce jeudi. La France a neutralisé, selon le terme officiel, le chef du groupe État islamique au Grand Sahara, Anne.
Abou Walid al-Sahraoui a été tué lors d'une frappe que l'on peut qualifier d'opportune. La force française Barkhane surveillait la forêt de Dangarous, dans la zone dite des trois frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Mais lorsque le drone a visé une moto qui circulait dans cette zone, on ne savait pas que l'un de ses deux occupants était le chef djihadiste. Ensuite, il a fallu presque un mois pour pouvoir confirmer son identité. Abou Walid al-Sahraoui était l'une des cibles prioritaires de la France. Son groupe est responsable des attaques les plus meurtrières dans la région des trois frontières. Responsable aussi de l'assassinat au Niger de 6 travailleurs humanitaires français de l'ONG Acted et de leur accompagnateur nigérien.
Oui, une des cibles prioritaires, il faut dire qu'Abou Walid al-Sahraoui était une figure du djihadisme au Sahel.
Il avait rejoint le mouvement très tôt. Lors de l'occupation du nord du Mali par les groupes djihadistes en 2012, Abou Walid al-Sahraoui était l'un des principaux responsables du Moujao dans la ville de Gao. Notre correspondant Serge Daniel l'avait rencontré à cette période. Il se souvient d'un homme à la barbe peu fournie à l'époque, à la voix presque fluette et flottant dans son gilet pare-balles. Abou Walid al-Sahraoui a fait partie ensuite du groupe Al-Mourabitoun. C'est en tant que porte-parole de ce mouvement qu'il a fait allégeance à l'État islamique. Cela lui a valu exclusion, mais il a continué son parcours et créé son propre groupe, l'État islamique au Grand Sahara, et en a donc fait l'un des principaux mouvements djihadistes au Sahel.
L'accent des autres.
En Belgique, à présent, le roi et la reine ont à nouveau rendu visite aux sinistrés des inondations. C'était mercredi dernier, le 15, 2 mois, jour pour jour, Jacques, après les terribles crues du mois de juillet dernier.
Le roi Philippe et la reine Mathilde sont retournés dans les communes qui bordent l'Ourthe et la Vesdre, en région liégeoise, à l'est du pays. Une visite essentiellement symbolique pour dire aux habitants, dont la situation reste très précaire, qu'ils ne sont pas oubliés.
Et du bien, monsieur.
Oui. T'en soutiens, monsieur. Parce que nous sommes pour l'instant abandonnés de tout le monde. Au début, il y a eu une grande solidarité, mais maintenant, il n'y a plus rien. On doit se débrouiller. On n'a pas de chauffage. J'ai du courant pour me dépanner et je réchauffe du manger sur une petite plaque électrique.
Et d'ailleurs, pour celles et ceux dont l'immeuble n'était pas assuré, le gouvernement wallon a décidé d'accorder une aide pouvant aller jusqu'à 80 000 euros. Au total, la région mettra sur la table, m'en compris, entre 2 milliards 300 000 euros et 3 milliards pour les victimes, mais aussi pour reconstruire toute une série d'infrastructures publiques.
Enfin, on va se quitter cette semaine au Canada. C'est la dernière semaine de campagne électorale et ce qui a retenu l'attention ces derniers jours avant les élections, Nadi Mubarak, c'est le dernier débat des chefs de parti, débat en anglais, et il a surtout été question du rôle de la modératrice de ce débat.
Tout à fait. Lors du débat, une modératrice a statué que le chef du Bloc québécois, le parti qui veut défendre les intérêts des Québécois à Ottawa, niait le problème de racisme au Québec avant de lui demander pourquoi il encourageait la loi sur la laïcité de l'État et le projet de loi sur la protection du français, deux mesures qu'elle a qualifiées de discriminatoires. Yves-François Blanchet a rapidement exprimé son indignation et a qualifié la question d'attaque en règle contre les Québécois.
Et aux côtés du chef du Bloc québécois, les réactions des autres élus n'ont pas tardé.
à commencer par le Premier ministre du Québec, François Legault, qui a effectué une sortie en règle contre cette question, estimant que la nation québécoise avait été attaquée. Les chefs des partis d'opposition à Québec ont aussi dénoncé de manière unanime ce qu'ils ont qualifié de Québec bashing, autrement dit de dénigrement de la belle province. Et sur la scène fédérale aussi, les chefs politiques ont rejeté le préambule de la question. C'est une question qui n'aurait pas dû être posée, a lancé le libéral Justin Trudeau. Le conservateur Aaron O'Toole, lui, a déclaré que les Québécois ne sont pas racistes. Le groupe de diffusion du débat a vite défendu le libellé de la question controversée, tout en disant que la modératrice n'affirmait pas que les Québécois sont racistes.
Une déclaration qui, on l'imagine, n'a pas calmé les esprits.
Les élus de l'Assemblée nationale du Québec ont adopté mardi à l'unanimité deux motions à ce sujet, une réclamant la fin du dénigrement du Québec et l'autre qui exige que le groupe de diffusion des débats présente des excuses formelles. Mais le lendemain, le consortium responsable du débat a refusé à nouveau de s'excuser, et ce malgré une demande en ce sens des chefs de partis fédéraux.
Merci à vous Nadi Mobarak pour Radio-Canada et merci à tous. C'était donc l'actualité des médias francophones publics, l'accent des autres avec RFI, la Radio-Télévision Suisse, France Inter, la RTBF et Radio-Canada. Excellente fin de semaine à vous. On se retrouve, si vous le souhaitez, la semaine prochaine à la même heure.